Radio Kapi.
À la une ce midi, en Ituri, plus de 450 personnes ont été tuées depuis le début de l'année par divers groupes armés, dont les rebelles ougandais de l'ADF, au sud d'Irumu. Le président de la société civile qui dresse ce bilan attire l'attention du gouvernement central sur la montée de l'insécurité qui endeuille des compatriotes. Dans la Tchopo, les commandos du camp militaire Baouma ont réussi à neutraliser le militaire qui a tué 4 personnes dans la commune de Kabondo. Il a tué le bailleur de son chef qui lui reprochait d'avoir tenté de violer sa fille mineure de 12 ans. L'autre invité, c'est le bâtonnier du barreau de Lubumbashi, maître Rose Ntumba, parle du fonctionnement du bureau de consultation gratuite qui reçoit chaque jour des indigents assistés gratuitement par des avocats. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, plus de 450 personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées depuis le début de l'année par différents groupes armés, parmi lesquels les rebelles ougandais de l'ADF au sud du territoire du Rumu. Le président de la société civile qui dresse ce bilan attire l'attention du gouvernement central sur la crise sécuritaire qui endeuille cette entité coutumière. Il a dit ce lundi avant le départ du premier ministre pour Beni au Nord Kivu. Au stade actuel, plusieurs villages sont vidés de leurs habitants et des milliers de civils ont été kidnappés. Les FARDC assurent quant à elles que des opérations se poursuivent pour sécuriser la population. Pour en parler, retrouvons à Bounia Ezekiel Mouzalia.
Dans son rapport, la société civile du territoire d'Irumu s'est dit inquiète de la situation sécuritaire volatile dans les chefferies de Tchabi, Boga et Walesevonkutu sur la route nationale numéro 4 au sud du territoire d'Irumu. Ici, des rebelles des ADF, par exemple, qui sillonnent dans la région, braquent, extorquent et tuent des civils dans plusieurs villages de la chefferie de Walesevonkutu. Cette structure citoyenne indique qu'environ 300 personnes ont été tuées par ces groupes rebelles. Selon ce rapport, d'autres encore sont exécutées dans la brousse par leurs ravisseurs sur la RN4 pendant le trafic. Même décor également dans la chefferie des Andisoma, Mobala, Babelebe et Babwa Bokoe, où d'autres mouvements insurrectionnels inquiètent la population. Ces acteurs sociaux disent avoir recensé plus de 450 personnes, dont 180 femmes massacrées par ces hommes en armes. Son président, Guili Gotabo, attire l'attention du premier ministre, chef du gouvernement, sur la crise sécuritaire que connaît le territoire d'Irumu. Par ailleurs, l'armée ne confirme pas encore ce bilan, mais atteste que des opérations se poursuivent dans la zone. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, les FARDC consolident les positions reconquises entre les mains des groupes armés dans les hauts plateaux du territoire de Fizi et de celui d'Ouvira. Objectif affiché, assurer la protection des civils dans les localités qui étaient jadis sous contrôle des rebelles Makanika Rukunda. Les miliciens encore actifs dans la région sont appelés à déposer les armes pour éviter les pires. Le point de la situation avec vous, Emmanuel Elemejo Kabedi.
C'est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au sud de Sud Kivu qui confirme la performance des FARDC dans les hauts plateaux de Fizi. Le capitaine Dieudonné Kasereka rassure qu'après plusieurs jours de combats, l'armée a reconquis plusieurs localités qui servaient de base arrière à la coalition Makanika, Gumino, Tuguaneo et leur allié FNL. C'est notamment à Kamombo, à Shakira et Nyamara en territoire de Fizi. Dans leur fuite en direction de la forêt de Bidjabo, ces ennemis de la paix qui ont subi de lourdes pertes ont incendié des maisons d'habitation. Le porte-parole de l'armée affirme que les habitants trouvés sur place refusent de confirmer l'existence d'un quelconque conflit communautaire dans cette région. C'est plutôt de simples intoxications de certains tireurs de ficelles qui incitent les jeunes de diverses communautés à la haine. Ainsi, les FARDC disent rester déterminés à imposer la paix dans cette partie de la RDC. Cela face à tous les groupes armés nationaux et étrangers. C'est avec la paix que le développement peut décoller dans les territoires d'Ouvira, de Fizi et de Mwenga, conclut l'armée. Emmanuel Elamejwa Kabedi Bukavu, Radio Okapi.
Et puis, dans la Tchopo, les commandos du camp militaire Bauma, situé à 10 km de la ville de Kisangani, ont réussi à neutraliser le militaire qui a tué 4 personnes dans la commune de Kabondo. Il a tué le bailleur de son chef qui lui reprochait d'avoir tenté de violer sa fille mineure de 12 ans. Le récit à Kisangani de Jacques Mukonkole.
D'après des sources sécuritaires, le militaire Kiza a été neutralisé par les commandos du camp Bauma venus pour appuyer les militaires FARDC. Ceux-ci s'étaient démenés sans succès pour mettre la main sur lui. Il était 22h, heure de Kisangani, lorsque les commandos ont attaqué la maison où c'est hors la loi, s'étaient retranchés avec les corps de sa première victime, le bailleur de son chef. À voir les images balancées sur les réseaux sociaux, son corps déchiqueté et quasiment brûlé se trouve à côté de celui de sa première victime, gisant dans une mare de sang. Avant d'être neutralisé, ce militaire a tué dans la journée d'hier 2 autres personnes, dont un militaire qui s'était rapproché de sa cachette pour tenter de le filmer, ce qui porte à 3 le nombre de personnes tombées victimes de ce militaire. Au finish, ce sont donc 4 personnes ayant perdu la vue, dont le meurtrier lui-même. Rappelons que tout avait commencé samedi dernier vers 17h. Un militaire avait tiré mortellement sur le bailleur de son chef qui voulait lui faire des reproches après avoir appris qu'il avait tenté de violer sa fille mineure âgée de 12 ans. Tous les 4 corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de Kisangani, selon les services de sécurité. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, au moins 32 pirogues et des filets prohibés ont été incinérés hier après-midi par la marine congolaise à Vichumbi, au sud du lac Édouard, en territoire de Rutshuru. Ces matériels ont été saisis par une patrouille mixte force navale, ICCN. C'est dans le cadre du projet de gestion intégrée des pêches et ressources en eau des lacs Édouard et Albert, LIF 2. Reportage de Bernard Danyangui.
Cette opération de patrouille mixte pour la réglementation de la pêche au lac Édouard avait été décidée par les acteurs congolais et ougandais. C'était lors des rencontres qu'ils avaient réunies en début du mois à Goma et à Kasindi dans le cadre du projet LIF 2. Après l'étape de Vichumbi hier dimanche, l'opération se poursuit ce lundi dans la pêcherie de Nyakakoma, territoire de Rutshuru, suivant par après les pêcheries de Kasindi et Kavinyong plus au nord, dit le secrétaire exécutif de la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard Fekopeil en sigle. Celui-ci demande au gouvernement de pérenniser ses actions. Josué Mukura.
Au lieu de 1187 pirogues, lac Édouard est exploité par plus de 3000 pirogues. Alors, il a été jugé de faire des patrouilles pour assainir le lac. Et à partir du 12, il y a eu des opérations. Mais comme c'est un projet qui va durer jusqu'au 28 ici, il faut que le gouvernement congolais puisse capitaliser tous ces résultats.
Rappelons que l'amiral John Ngoi, commandant du 33e groupement naval, a lui-même supervisé l'opération d'incinération hier dimanche, des 32 pirogues et ses tas de filets prohibés à Vichumbi. Ces matériels sont saisis pour pêche dans les zones de frayère, soit pour faute d'immatriculation reconnue. Goma, Bernard Dengangui, Radio Okapi.
Traquer les bandits Kuluna et les jeter en prison n'est pas une solution durable. Alors comment endiguer définitivement ce phénomène dans la cité de Manzangungu au Congo central? La question a été au centre d'une tribune d'expression populaire animée hier dimanche à Manzangungu par la coopérative agricole dénommée Luzololoa Toma. À cette occasion, les leaders des différentes structures locales ont plaidé pour l'appui et la dépolitisation du secteur éducatif en RDC. Amatadi, le compte-rendu de Nana Plus Riche Mambou.
Au cours des assises de Mbanzangungu qui ont connu la participation de 120 personnes issues de plusieurs couches de la population, Esther Lutonadio, inspectrice à l'enseignement primaire qui est intervenue sur les structures éducatives, a indiqué que la délinquance a pris de l'ampleur à cause de la politisation des structures censées encadrer les jeunes, dont l'église, la démotivation des enseignants, les manques de financement des ONG d'encadrement des jeunes ainsi que le chômage et les sous-paiements des parents. Pour sa part, le président de la coopérative agricole Luzololoa Toma a affirmé qu'il existe plusieurs initiatives pour réinsérer ces délinquants, mais le gouvernement congolais doit mettre les moyens. Victor Nzuzimbembe.
Nous allons arrêter jusqu'au fond. Mais tant qu'il n'y aura pas de moyens pour encadrer ces Kuluna-là, et le moyen vient de l'État. Les petits calculs qu'on a fait, avec 240 000 dollars, on peut déjà encadrer un grand nombre des leaders Kuluna et après une année, ils deviennent des mécaniciens, des maçons et pourquoi pas des agriculteurs.
Notons que l'objectif de cette tribune d'expression populaire sur les phénomènes Kuluna à laquelle ont participé les structures étatiques, les associations des jeunes, chrétienne et les leaders communautaires était de responsabiliser la police, l'armée, les journalistes, la famille, les églises, les écoles, ainsi que les différentes structures de développement et d'encadrement des jeunes de Mbanzangungu à user des moyens à leur disposition pour mettre un terme à l'activisme des bandits dans cette entité. Matadi, Nana Plirish Mambou, Radio Okapi.
Cas d'insécurité spectaculaire ce week-end à Gemena. Il s'agit d'un vol à main armée opéré au quartier Saza, situé à l'est de la ville. Des bandits ont tiré à bout portant sur un civil à qui ils ont ravi une importante somme d'argent avant de disparaître. Mais la police nationale qui mène actuellement l'enquête a déjà mis la main sur quelques suspects. Radio Kapimbandaka, Paul-Richard Malengela.
Des témoins affirment que la victime est un trafiquant qui a l'habitude d'acheter et de revendre des chenilles comme c'est la saison à Gemena. Alors, samedi passé, vers 16h locale, les malfrats sont venus lui proposer un marché de sacs de chenilles. Ils l'ont invité à aller voir et négocier la marchandise dans leur domicile, situé au quartier Saza dans la partie est de la ville de Gemena. Chemin faisant, indique nos sources, les prétendus vendeurs de chenilles exigent au cortège de faire escale à la concession Selpa. C'est là que l'un des deux bandits va subitement sortir une arme et tirer à bout portant sur le trafiquant en lui logeant une balle au ventre. À l'instant que la victime tombe, les intestins dehors, le bandit et son compagnon ont ensuite neutralisé son taximan avant d'emporter le sac d'argent et la moto. Le public qui a accouru a vite amené la victime à l'hôpital où sa vie n'est plus en danger selon le rapport médical. Toutefois, ce premier cambriolage en pleine journée a pratiquement paniqué plusieurs habitants de Gemena. Mais aussitôt alerté, la police a ouvert une enquête. Quelques suspects sont déjà aux arrêts et l'enquête se poursuit, ont souligné nos sources. Bandaka, Paul Chamanenge, la radio Okapi.
Et au Maniema, 5 détenus se sont évadés ce week-end de la prison centrale de Kasongo. 2 condamnés ont réussi à s'échapper lorsqu'il pleuvait à l'absence des policiers commis à la garde. C'est ce qu'annonce à Radio Okapi l'administrateur du territoire, Kingombe Kitenge plaide pour le ravitaillement de cette prison centrale à médicaments essentiels et à nourriture. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, elle est vraie cette information, ce qui favoriserait le départ et il pleuvait. Aux environs de 21 heures, les prisonniers avaient percé une tôle, ils ont foncé la toiture et ils en ont profité pour escalader les mines et pour partir. Et il faut aussi ajouter que l'absence au poste de garde des éléments de la police qui étaient très favorisés aussi cette évasion. Mais au moment où je vous parle, les 2 policiers sont aux arrêts. Les messages sont lancés un peu partout pour que les fugitifs puissent être récupérés. Parlant des conditions de la prison, c'est vraiment déploré. Je vous dis que les prisonniers, pour le moment, ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas d'eau potable parce qu'à Kasongo, dans l'ensemble, ça fait de cela 3 mois que la régie des eaux ne fonctionne pas. Il faut même des produits pharmaceutiques, ce qui fait que les conditions des prisonniers sont devenues tellement déplorables et difficiles. Et faire en sorte que la prison soit vite ravitaillée sur la nourriture, c'est aussi bien un produit pharmaceutique parce que avoir l'état de santé des prisonniers pour le moment, c'est vraiment déplorable.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, en rapport avec le décès de Gabriel Kyungokumwanza, des acteurs politiques de tous bords ont salué l'héritage du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et leader de l'UNAFEC. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, salue la mémoire d'un homme dont l'héritage s'étend au niveau national et exprime toute sa compassion à la famille de l'illustre disparu et ses proches, ainsi qu'aux militants de son parti politique. Moïse Katumbi Bichapoué, président d'Ensemble, parle d'un grand frère et d'un ami. Il dit garder le souvenir de son franc-parler. Martin Fayoulou Madidi de la Mouka console également sa famille et présente ses sincères condoléances. La disparition de Gabriel Kyungokumwanza est une grande perte pour le Katanga. Déclaration du président de la solidarité congolaise pour la démocratie SCO dans sigle. Jean-Claude Muyambo estime que le combat mené par l'illustre disparu pour l'unité du Katanga doit être pérennisé. Il s'est confié à Jean Gandou.
C'est une triste nouvelle, une perte énorme pour les Katanga. Nous devons tout faire pour qu'il y ait l'unité de tous les Katangais. Ce n'était pas un homme compliqué. Il fallait seulement savoir à quel moment parler avec lui, discuter avec lui. Et il comprenait. Quand on lui disait, Baba, là, vous n'êtes pas dans le bon chemin, et il comprenait. Il apprenait plus pour l'identité de tous les fils et filles du Katanga. Nous allons tout faire pour que les Katanga puissent demeurer unis. Vous savez, à un certain moment, on a voulu nous séparer, mais on s'était dit que ce n'était pas bien pour nous-mêmes, et je pense même pour les générations futures. C'est-à-dire, nous devons être unis.
Il y en a qui disent également que la perte du président Kyungu, c'est aussi un coup dur pour le président de la République. Qu'en dites-vous?
On l'avait désigné, nous tous, comme président de l'Union sacrée. Mais il n'est plus là, et effectivement, c'est un coup dur pour le président.
Actualité internationale.
Plus d'une semaine après la catastrophe naturelle qui a endeuillé Haïti, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Au Caï, dans le sud de l'île, des centaines de personnes regroupées sur un terrain de football attendent désespérément de recevoir des vivres. Seulement voilà, l'insuffisance de ces vivres alimente actuellement des tensions sur les camps de Gabion. Bien plus, l'aide alimentaire est difficile à acheminer dans les villes environnantes car l'accès est impraticable. Un garde afghan a été tué lors d'un échange de tirs ce lundi matin à l'aéroport de Kaboul, entraînant du coup l'intervention des forces allemandes et américaines. Selon l'agence France Presse AFP, des officiers allemands annoncent une altercation entre des gardes afghans et des miliciens non identifiés à la porte nord de l'aéroport de Kaboul. Un garde afghan a été tué et trois autres grièvement blessés.
L'invité.
Notre invité, c'est le bâtonnier du barreau de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Maître Rose Mutombo parle du fonctionnement du bureau de consultation gratuite installé à ce barreau qui reçoit chaque jour des indigents assistés gratuitement par des avocats. Elle s'entretient avec Jean Gandou.
Madame le bâtonnier, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean Gandou.
En quoi consiste le bureau de consultation gratuite implanté au sein du barreau de Lubumbashi?
Le bureau de consultation gratuite a pour objectif de permettre l'accès à la justice à tous les indigents. En fait, le barreau a une mission de sacerdoce, c'est-à-dire que le barreau doit assister tous les indigents qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer les prestations d'un avocat. Dans le cadre de ces consultations gratuites, le barreau reçoit les veuves, les orphelins, les policiers, les militaires. Donc tout celui qui a besoin d'accéder à la justice, mais qui n'en a pas les moyens. Parce que vous savez tous que les honoraires de l'avocat coûtent cher. Mais l'avocat a une rubrique où il lui est permis de consulter gratuitement. C'est quand le bâtonnier désigne d'office des avocats. Mais pour les stagiaires, nous avons institué un système de permanence. Donc, suivant la liste des stagiaires, chaque stagiaire sait que tel jour, c'est lui qui va assumer la permanence à ce bureau pour accueillir tous ces indigents.
Mais vous parlez des orphelins, de veuves. Qu'est-ce qui vous garantit que toute veuve est indigente ou tout orphelin est indigent?
Nous apprécions au cas par cas, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes veuve que vous êtes automatiquement indigente. Nous apprécions cela au cas par cas, suivant les dossiers qui nous parviennent.
Mais l'indigence ne se décrète pas?
En fait, pour constater cette indigence, les personnes qui viennent doivent se munir d'une attestation d'indigence qu'ils obtiennent à la division des affaires sociales.
Alors, dès qu'un indigent se présente ici, il pose son problème, vous les suivez de bout en bout ou c'est juste sur le plan de conseil et ça s'arrête par là?
C'est pas seulement uniquement sur le plan de conseil. Quand le dossier nécessite un accès à la justice, nous demandons à l'avocat de faire le suivi. Mais pour les frais de justice qui permettent à l'avocat de faire introduire l'action en justice, c'est soit les fonds qu'on obtient des bailleurs de fonds, qui peuvent être le gouvernorat, ou les bailleurs de fonds internationaux, comme Avocats sans frontières, qui nous accompagnent, qui permettent à l'avocat de faire face à ses frais. L'indigent ne prend pas en charge ses frais, sauf si vraiment il a le minimum.
Mais c'est quand même difficile qu'un avocat puisse s'engager avec toute son intelligence pour un travail pour lequel il ne serait pas payé in fine.
Non, c'est ça ce qu'on appelle la mission de sacerdoce. Nous devons aussi aider la population. Nous devons aussi travailler gratuitement. Tout avocat, dès qu'il est désigné d'office par le bâtonnier, il doit le faire. Mais après, lorsqu'il y a des fonds qui nous arrivent, nous les partageons avec les avocats qui travaillent dans ce cadre-là. C'est comme ça que nous recourons à l'aide légale qui nous provient généralement du gouvernorat. Le gouvernorat a eu à nous aider de temps en temps. À Avocats sans frontières, nous signons des contrats ponctuels avec eux, le PNUD également, soit pour les victimes, soit pour la défense de la défense.
Admettons que ce soit une affaire de créance. Au bout du compte, le client ou l'indigent est payé. Va-t-il également donner un petit quelque chose à l'avocat ou tout entre dans le cadre de la consultation qui était au départ gratuite?
Si c'est un dossier qui rapporte beaucoup d'argent, ça c'est autre chose. Nous pouvons demander à l'indigent de donner quelque chose à l'avocat. Ça, c'est le bâtonnier qui décide dans ce cas-là.
Et cette consultation gratuite, elle est permanente ou ponctuelle?
Elle est permanente. Nous avons un rôle de permanence qui s'est même affiché. Tous les stagiaires, à tour de rôle, assistent les clients parce qu'à la fin de leur stage, ils doivent prouver qu'ils ont travaillé au bureau de consultation gratuite.
Mais pourquoi ne pas y commettre des avocats? Les stagiaires, ils ont quand même certaines insuffisances.
Quand il s'agit des dossiers qui sont en cours en justice, on désigne également des avocats rodés pour chapeauter ces jeunes stagiaires, pour les aider à apprendre à travailler dans ce cadre-là.
Et les indigents dont il est question, sont-ils simplement ceux de Lubumbashi ou ceux qui peuvent venir d'ailleurs mais qui ont les documents auxquels vous avez fait allusion et qui pourraient également se présenter auprès de vous?
C'est tous les indigents de la province du Haut-Katanga parce que nous sommes rattachés à une cour d'appel. Donc ça peut être Kasumbalesa, ça peut être Kipushi, ça peut être Kambo, ça peut être Pueto, Likasi également. D'ailleurs, j'envoie des fois même des avocats qui descendent dans les amigos. Ça peut être Buluo, ça peut être l'amigo de Kasumbalesa, l'amigo de Kasenga et ainsi de suite.
Madame le bâtonnier, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Monsieur Changando.
L'invité de Radio Okapi, c'était le bâtonnier du barreau de Lubumbashi, Maître Rose Ntumba, interrogé par Changando, et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. J'adresse une fière chandelle à Élisée Tikota Mwamboui, et qui m'a aidé à préparer ce produit. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi.